France Inter.
7h, le journal d'Ariane Grissel. Bonjour Ariane.
Bonjour. Des champs humides, des silos aux quarts vides. 2024, année noire pour les moissons. L'une des pires des 40 dernières années. Nous verrons ce que cela veut dire pour nous, les consommateurs, avant d'en parler avec vos invités à 8h20, Alexis.
Oui, le grand entretien ce matin avec ces agriculteurs frappés à nouveau par le dérèglement climatique cette année. Avec nous, un céréalier, mais aussi un vigneron et une hydrologue. On attend bien sûr vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 et via l'appli Inter.
Dans ce journal aussi, une tentative de ramener la paix au Soudan, début de pourparlers après 16 mois de guerre et de famine. Du mieux, du côté des incendies en Grèce, le feu est fixé, mais certains habitants ne peuvent que constater les dégâts. Nous nous pencherons également sur ce souvenir que nous ont laissé les Égyptiens de l'Antiquité, pas les pyramides, mais juste à leurs pieds, une contamination aux métaux qui nous en dit long sur leur technique. Et puis de records coups humains, les robes de la cérémonie d'ouverture des Jeux sont exposées en ce moment à Paris.
Que vont devenir les deux astronautes américains coincés dans la Station Spatiale Internationale, car leur vaisseau Boeing est peut-être défectueux? On va en parler dans trois quarts d'heure avec notre premier invité, le Français Jean-François Clairvoy, Français aux trois missions spatiales.
France Inter.
L'agriculture, un domaine dans lequel la météo est à la fois meilleur allié et pire ennemi, les cultivateurs le savent, et cette année a été particulièrement compliquée, beaucoup de pluie, peu de soleil. Les moissons sont en train de se terminer sur un bilan maigre, notamment pour le blé tendre, celui qui sert à la production de pain et de gâteaux, l'un des rendements les plus faibles de ces 40 dernières années, 26 millions de tonnes selon une estimation du ministère de l'Agriculture. C'est un quart de moins par rapport aux 5 dernières années. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau promet un recours rapide aux assureurs pour compenser les pertes financières. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, les consommateurs? Nous allons voir ça avec vous, Maria Melchiordi. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste agriculture de France Inter. Alors déjà, est-ce qu'il y aura assez de farine et de pain dans nos boulangeries?
Oui, rassurez-vous, notre production de blé est largement suffisante pour satisfaire notre consommation de pain. En revanche, la baisse de nos rendements de céréales aura des répercussions sur nos exportations. La France, cinquième exportateur mondial de blé tendre, aura deux fois moins de stock à vendre, moins de 5 millions de tonnes. Mais pas de pénurie ni de tension au niveau mondial en raison notamment des stocks russes. Ils sont volumineux et largement suffisants pour répondre à la demande, notamment du Proche-Orient et de l'Afrique subsaharienne. Moscou va conforter sa place de leader dans le commerce du blé et s'apprête à gagner des parts de marché au détriment de la France, selon Agritel, cabinet spécialisé dans l'analyse du marché des céréales. Les États-Unis ont également fait une très bonne récolte, donc pas de déséquilibre offre-demande à l'international.
Mais s'il y a moins de blé français, est-ce que ça veut dire que le prix du pain va augmenter chez nous?
Non, d'une part parce que le cours du blé est mondial, il ne remonte pas. Au contraire, il est à la baisse en ce moment, 210 euros la tonne sur Euronext contre 260 en mai dernier par exemple. D'autre part, il faut savoir que les matières premières, dont la farine, représentent seulement 7 centimes du prix total d'une baguette, donc pas de raison pour que vous achetiez votre pain plus cher.
Les précisions de Maria Melchiordi. Chez les aviculteurs, ce n'est pas la pluie, mais la faune sauvage qui inquiète, soupçonnée d'avoir transmis la grippe aviaire à un élevage de volailles d'Ille-et-Vilaine, premier foyer détecté en France depuis janvier.
En Grèce, Ariane, l'incendie qui menaçait Athènes est désormais fixé.
Les pompiers se veulent rassurants, même si des poches de flammes persistent par endroits. Le feu a ravagé 10 000 hectares d'une terre très sèche au nord-est de la capitale. Un mort, 71 blessés et une centaine de maisons très abîmées, dont celle de cette habitante de Patima Landriou que vous avez rencontrée, Marion Ferrer.
Marielle, la soixantaine, nous accueille au milieu des décombres.
Le feu a tout brûlé.
De sa maison et de son bureau, il ne reste presque plus rien. Les murs, les poutres, tout est calciné, noirci par les flammes. Le balcon est suspendu dans le vide, s'amuse-t-elle.
Ici, il y avait la cuisine. À l'intérieur, c'était notre chambre. Et ici, la salle de bain. Ah, ici, c'était les toilettes du bureau. Et en haut, c'est ce qu'il reste de ma maison.
Maria et son mari ont été surpris par la violence de l'incendie. Ils n'ont eu que quelques minutes pour sauver leur chien et leur chat. Tout le reste est parti en fumée avant même l'arrivée des pompiers.
On a vu le feu sur le haut de la montagne. Il y avait beaucoup, beaucoup de fumée. Et elle était très noire. Et le vent était très fort. En 5 minutes, On a dû partir. On n'a pas compris ce qui se passait.
Au milieu des débris, Maria nous l'assure, nous allons tout reconstruire. Mais le problème, c'est que ça recommence tous les ans, déplore-t-elle.
Le reportage de Marion Ferrer avec les moyens techniques de Romain Lucquens. Les autorités russes décrètent l'état d'urgence dans la région de Belgorod. Le gouverneur y décrit une situation extrêmement difficile à cause des bombardements ukrainiens. L'Ukraine dit avoir conquis 74 localités dans la région voisine de Koursk. Agir pour un cessez-le-feu tout en anticipant le pire. Les États-Unis approuvent la vente d'armes pour 20 milliards de dollars aux autorités israéliennes. 50 avions de chasse, des munitions et des obus de mortier. Il faudra au moins 5 ans pour boucler cette commande. En parallèle, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a demandé à Benjamin Netanyahou d'empêcher de futurs actes de provocation. Hier, le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir est allé prier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Les États-Unis, aussi préoccupés par la situation au Soudan, des représentants américains doivent mener aujourd'hui une réunion de pourparlers en Suisse. Paramilitaires et armées se font la guerre depuis 16 mois dans le pays. 12 millions de déplacés dans un état très pauvre. La moitié de la population souffre de malnutrition, mais difficile d'intervenir. Pour les ONG, explique Kevin Goldberg. Il est le directeur général de Solidarité Internationale, la première organisation à s'être déployée dans la région après le début de la guerre.
L'intensité des combats et le fait que nul n'est protégé de ces combats fait qu'il est très difficile même d'avoir une idée du niveau de catastrophe. Ce qu'on voit, c'est que les champs ne sont pas cultivés, que les prix sur les marchés ont explosé, on est à plus de 300% parfois, et surtout, ce que l'on voit, c'est des gens qui meurent de faim, qui sont obligés, pour se nourrir, de recueillir des feuilles, faire avec le peu de céréales qu'ils trouvent et se passer de très nombreux repas. Si rien ne change, on pourrait atteindre plusieurs millions de morts du fait de la faim, le tout en 2024. Je peux vous donner un petit exemple peut-être. On est aujourd'hui donc présent dans le camp de Zamzam, qui se situe près de la ville de El Fasher, une ville dans laquelle il y a énormément de conflits entre les deux armées. Ce camp, il a connu une augmentation dramatique du nombre de personnes qui sont venues s'y réfugier, ce qui amène à 500 000 de personnes qui habitent ce camp de déplacés. Aujourd'hui, on sert moins de 1000 personnes par jour en eau parce qu'on n'est pas en mesure de faire venir plus de camions, de faire tourner une opération plus grande, tout ça parce que l'accès est extrêmement difficile.
Kevin Goldberg, directeur général de Solidarité Internationale, joint par Valérie Crova. Pas de décompte des voix publiées, pas de procès-verbaux. Les experts de l'ONU au Venezuela s'interrogent sur la crédibilité des résultats de l'élection présidentielle de fin juillet. Nicolas Maduro, réélu avec 52% des suffrages. Réponse du président du Parlement, ces experts sont des ordures. Jorge Rodriguez veut désormais interdire tout observateur étranger dans le pays.
France Inter, 7h07. Le coût de la vie étudiante augmente encore cette année selon l'UNEF.
Hausse de 2,25% d'après le syndicat étudiant, 482 euros de plus sur l'année. L'UNEF dénonce l'augmentation des frais d'inscription à l'université. Pour les plus jeunes, en revanche, ça va mieux. Selon les calculs, cette fois, de Famille de France, le coût de la rentrée pour un élève de 6e baisse d'1,27% pour atteindre 223 euros. On y revient en détail dans le journal de 7h30. L'heure des comptes aussi pour la rentrée des Républicains. Éric Ciotti est toujours président du parti après son alliance avec l'extrême droite de Marine Le Pen. Mais Laurent Wauquiez et d'autres membres de LR envisagent toujours de le faire partir, Marie Mollet.
Au cœur de l'été, Éric Ciotti s'accroche à son fauteuil comme la moule à son rocher, tacle un député LR. Et Laurent Wauquiez, lui, n'a toujours aucune intention d'abandonner le parti à son rival. Le siège, les précieux fichiers d'adhérents et les financements, même si le nom Les Républicains sera liquidé. Un contentieux qu'un rendez-vous au tribunal le 14 octobre doit enfin trancher, mais les ténors LR ont en tête un autre chemin. Tordre le bras du Niçois, le forcer à partir avant le passage devant un juge, quitte à user d'un argument convaincant, l'argent. Cet été, ils ont commandé à un cabinet d'avocats une estimation du préjudice financier dont Éric Ciotti pourrait s'être personnellement rendu coupable. Atteinte à la réputation, baisse de la dotation publique, montant estimé près d'1 million d'euros d'après une source interne. De quoi entamer peut-être la ténacité d'Éric Ciotti ? Pas du tout, balaye l'un de ses proches. Ils essaient juste de lui faire peur. Le droit est de notre côté. Éric Ciotti, lui, n'a pas été vu au siège des Républicains depuis le 13 juin, où il était apparu tout sourire. Salut, princier, depuis la fenêtre.
Marie Mollet, 160 000 foyers privés d'électricité en Savoie hier soir vers 22h. La foudre a abîmé un poste et une ligne électrique. Tout est rentré dans l'ordre ce matin, selon Enedis. À l'époque, au moins, pas de dépendance au courant, mais les Égyptiens de l'Antiquité avaient aussi recours à des techniques spécifiques dont on vient de découvrir des traces 5000 ans après. Donc, Elisa Robuchon, des analyses sur le site de la nécropole de Gizeh révèlent une curieuse contamination aux métaux.
La recherche s'est déroulée sur le lieu de l'ancien port situé aux abords des pyramides. Ici, la contamination aux métaux est telle qu'elle ne peut pas être naturelle. Elle vient des outils utilisés par les Égyptiens, explique le chercheur au CNRS Alain Véron, qui a participé à l'étude.
Tous les outils qu'on utilisait pour gratter les pierres, etc., eh bien, c'était des outils en cuivre, dans lesquels on rajoutait un tout petit peu d'arsenic pour le rendre plus dur. Ça restait tout de même un matériau assez tendre. Et donc, quand ils taillaient, eh bien, tout ce cuivre et une partie de l'arsenic qu'ils avaient rajouté dedans s'en allait, était ruisselé dans les sédiments et finissait dans ce port.
Si on savait que ces outils étaient utilisés, une telle proportion n'était pas connue et les variations dans le temps de cette contamination permettent de dater la pyramide de Khéops.
Il y a des estimations qui sont faites sur sa construction. On dit qu'elle a été construite entre 2036 et, voire certaines estimations, 2500, 2600, 2650 avant notre ère. Nous, on a montré que l'activité agricole et les enrichissements en cuivre ont augmenté exactement au même moment, en 2615 avant notre ère.
Ce qui conforte la date la plus ancienne de construction de la pyramide et ouvre des pistes de recherche.
On a été contacté par d'autres archéologues pour des dynasties qui ont construit des pyramides ailleurs et on pourrait l'utiliser dans d'autres sites pour bien caler d'un point de vue temporel, la construction de différentes pyramides.
Les chercheurs souhaiteraient notamment appliquer cette technique à d'autres endroits du Nil.
Des Pays-Bas à la Belgique, les cyclistes du Tour de France Femmes rejoignent Liège aujourd'hui pour la quatrième étape. Départ à midi 25 de Valkenburg, la néerlandaise Demi Vollering, tenante du titre, est en jaune. Là, ce fut une course de fond, aiguille à la main, des milliers d'heures de travail pour confectionner les robes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour quelques minutes de passage à l'écran. Mais que les amateurs se rassurent, les tenues sont désormais visibles à la Galerie Dior à Paris. Angèle Châtelier.
Ce que le public veut voir, la robe de...
Céline Dion, je crois, comme tout le monde.
J'ai vraiment beaucoup aimé celle de Céline Dion.
Céline Dion, voilà, dans sa magnifique robe. Hein.
Une robe à manches longues argentées au tissu appelé georgette de soie, décorée de milliers de perles brodées à la main. Elle a demandé 1000 heures de travail.
La robe était vraiment sublime. Elle sortait un peu de ce qu'on voyait, je trouve. C'était juste sublime. Le tout était sublime. Donc le voir de ses propres yeux, c'est encore mieux.
Avant de la retrouver, un long périple d'une dizaine de pièces, une entière dédiée à la robe portée par Lady Gaga. Gaga en plumes rose et noire. Un escalier, un couloir et nous voilà dans l'une des plus impressionnantes. La robe à bustier aux couleurs du drapeau français est là, sur une estrade, surplombée par des dizaines d'autres robes. C'est celle que portait Axel Saint-Cyrel. Puis vient cette pièce, presque exiguë comme un couloir. C'est ici que se trouve la fameuse robe de Céline Dion, pas tellement mise en avant, plutôt accolée à d'autres, comme celle à plumes dorées qui habillait Aya Nakamura. Une belle vitrine pour la mode à la française, surtout pour les touristes venus nombreux pour la toucher du doigt.
C'est tellement élégant, j'adore les couleurs, les formes, les corsets. C'est vraiment très beau.
De quoi apaiser la nostalgie des Jeux.
Bah j'avoue que ça me manque un peu.
En célébrant la mode.
Des robes donc à voir jusqu'au 30 septembre à la Galerie Dior, avenue Montaigne à Paris.
Merci Ariane Grissel. Eux sont indispensables à la réussite des athlètes olympiques et paralympiques. Parole à ceux qui œuvrent dans l'ombre des champions. C'est le rendez-vous cet été de Clara Lecoq-Réal. Et ce matin, Clara, vous poussez la porte d'un pôle santé.
En entendant parler du suivi médical des para-athlètes de haut niveau, je me suis demandé qui est le médecin qui s'occupe d'eux.
Pour préserver la santé des para-athlètes, je peux lever un drapeau rouge.
Elle préfère laisser sa blouse blanche sur le porte-manteau. Elle, c'est le docteur Constant Samelon-Petit, médecin du sport et de médecine physique et de réadaptation auprès d'une trentaine d'athlètes. Celle qui veille à ce que leur pathologie soit respectée, mieux soignée pour éviter la contre-performance.
Donc là, on est au pôle parasport santé, donc à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et donc les parasportifs viennent là, on les rencontre toujours en équipe dans la grande salle pour accueillir tout le monde.
Un travail en équipe du prothésiste jusqu'à l'entraîneur. Et c'est le médecin, en l'occurrence Constance, la chef d'équipe.
C'est toujours sur prescription médicale parce qu'il y a des vrais enjeux derrière. Et s'il y a des blessures ou etc., c'est tout le projet fonctionnel de la personne qui peut être engagé.
Il faut pour cela l'œil de Constance qui ne détecte pas que le handicap visible.
Un paraplégique, c'est pas juste quelqu'un qui ne marche pas, c'est aussi des troubles sensitifs. Ils sentent moins bien, donc ils sont à risque de blessures, donc des problèmes d'installation. Il y a des problèmes neuro-urologiques. Si ça, c'est pas bien contrôlé, il peut y avoir des fuites qui peuvent créer des retentissements sur les reins.
Viennent donc les conseils du médecin.
Je pense pas passer pour la méchante pour le coup quand je leur explique que, en fait, le suivi médical du handicap, il est nécessaire parce que s'ils font pas bien leur suivi, derrière, ils vont contre-performer. Ils vont avoir l'infection urinaire le jour de la compétition. Ils vont blesser parce que l'installation n'aura pas été bien faite.
Constance peut même leur demander des vidéos pour vérifier à distance les protocoles mis en place.
Voilà, par exemple, là, c'est une vidéo d'une sportive donc, qui court avec sa lame de course. Ça nous permet de voir s'ils ont fait attention à son genou, mais aussi son axe de course.
2, 1, c'est parti.
Donc ça nous permet de valider techniquement déjà si c'est bien, et puis après, médicalement, on le fait toujours en ma présence derrière.
Et quand un para-athlète passe plusieurs mois sans blessure ni problème...
Là, je suis quand même assez fière, et on l'est tous. Hein. Il y en a qui nous envoient des photos, des petites lettres.
Une joie qu'elle partage avec toute l'équipe du pôle santé.
Je peux pas travailler toute seule, pas dans le parasport. Je connais pas tous les sports, je connais pas tous les critères de performance. Sur le plan technique, je connais pas forcément tous les types d'appareillages qui existent au monde.
Et tous se sont mis d'accord. Depuis le début de l'année, on ne modifie aucun protocole, aucun appareillage.
Si le petit changement blesse, du coup c'est 3 semaines de perdu d'entraînement. Sauf blessure, évidemment, il faut qu'on réfléchisse. Mais si là tout va bien, on touche plus. Jusqu'à après les Jeux, à mon avis, on va re-avoir beaucoup de demandes pour les Jeux d'après.
Dans l'ombre des champions, c'est signé Clara Lecoq-Réal et c'est à retrouver en intégralité sur le site d'Inter.